Priez.
Oui, Père, merci parce que nous allons pouvoir ouvrir ta parole encore et que tu diriges, que tu donnes les mots qu'il faut. Seigneur, que tu parles dans les cœurs. Tu connais ma faiblesse, Seigneur, tu sais que si ce n'est pas toi qui parles, rien ne peut se faire. Et Seigneur, je te prie de faire grâce. Parle dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est une bonne exhortation, n'empêche, levez-vous et priez. Et c'est vrai qu'un mois suffirait pas, mais c'est déjà pas mal, faire un mois. Et merci de l'invitation, parce que ça m'a obligé à, pendant les vacances, à lire des livres sur la prière. Faut dire que c'est des livres que j'avais déjà lus, pour la plupart. Parce que de temps en temps, je me lisais un livre sur la prière pour me stimuler. Alors de temps en temps, allez, je dis, ça serait bien que je lise un livre sur la prière parce que j'ai besoin de nouveau un petit coup pour être plus zélé pour la prière. Moody, un jour, s'est adressé à une assemblée d'enfants à Édimbourg et il pose cette question: qu'est-ce que la prière? Bon, lui, il allait répondre, mais tout de suite, il y avait plein d'enfants qui levaient la main en disant ah. Et du coup, bon, il a interrogé un enfant, et cet enfant lui a dit: prier signifie faire nos demandes à Dieu au nom de Jésus-Christ pour des choses qui sont conformes à sa volonté, avec confession de nos péchés et notre reconnaissance pour sa miséricorde. Pas mal, hein? Pour un enfant, de donner une réponse comme cela. C'est vrai qu'il y a beaucoup de citations aussi sur la prière. Prier, c'est tout simplement laisser notre âme se tourner vers Dieu. La prière est une déclaration de notre dépendance de Dieu. Oui, c'est un dialogue, c'est une communion avec Dieu. Mais c'est bien beau de parler de la prière, mais comment prier? C'est la question qu'on peut se poser. Et d'ailleurs, c'est cette question qu'un disciple a posée à Jésus. Et en fin de compte, on est au bénéfice de cette question. C'est formidable. Merci Seigneur de ce que ce disciple a posé cette question, parce que du coup, on a un modèle que le Seigneur nous a donné. Alors donc, ça ne sera pas Jean 17, désolé, mais ça sera Matthieu 6. J'étais plus poussé à faire sur cela. Donc, je vous propose, non pas dans Luc, mais dans Matthieu, sur le Notre Père. Matthieu 6, à partir du verset 9. Matthieu 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Voici comment vous devez prier. C'est vrai, cette prière, c'est une prière qui est connue, archi connue, même connue des incroyants. Une prière qui est dans certaines liturgies, elle en fait partie, dans certains offices. Il y a même certains pratiquants qui la récitent X fois d'affilée. C'est pas ce que le Seigneur voulait. D'ailleurs, juste avant, il dit: en priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Il s'imagine en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Non, cette prière est comme un modèle, un guide pour nous aider à prier. On pourrait dire que le Seigneur nous a donné un cadre. Et je voudrais avec vous méditer cette prière parce que il y a des mots très profonds là-dedans. Mais des mots qui nous engagent aussi. Je ne sais pas si ceux qui récitent Notre Père X fois se rendent pas compte qu'ils s'engagent aussi. Ou ça devrait les engager. Donc ce matin, nous allons voir la première partie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et cet après-midi, on verra, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Notre Père. Cela implique que nous adressons à un Dieu personnel, pas à un esprit comme ça, impersonnel, une force quelconque. Non, notre Père. Mais la question s'est posée, mais est-ce que Dieu est le Père de tous? Dans un sens, oui. Dans un sens, oui, au niveau, dans le sens de créateur. Comme il est dit dans Malachie, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Ou alors, dans l'Épître aux Éphésiens, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. C'est vrai qu'il y a aussi, à un moment donné, Dieu s'adresse à son peuple, le peuple juif, le peuple d'Israël, où il dit « Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon premier-né ». Il est dit aussi qu'il est le père des orphelins. Mais spirituellement parlant, est-ce que Dieu est notre père à tous, spirituellement parlant? Non. Il n'est pas le père de tous. Et pour cela, il y a tout un passage, un long passage, mais c'est intéressant de le lire parce que ça va nous montrer. C'est même Jésus qui va dire qu'il n'est pas le père de tous. Et il va s'adresser à un public, à des juifs qui commençaient à croire. Ça se trouve dans Jean 8. Il y dit ceci dans Jean 8. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Dites aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu que vous deviendrez libres ?»« en vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ah, là, Jésus commence à mettre le doigt là. On va continuer la lecture. Ils lui répondirent, notre père, ben c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il insiste, hein. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu.
Ah, voilà.
Ils affirment que Dieu est leur père. Regardez la suite. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est de lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas m'écouter. Vous avez pour père le diable. Waouh! Sacrée vérité, dure à entendre. Hein. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est un menteur. Il est le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Je répète, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous voyez que spirituellement, Dieu n'est pas le Père de tous. Et donc, ça fait loterie déjà. Dieu n'est pas obligé de répondre à une prière d'un inconverti. C'est par pure grâce. Les promesses qu'elles sont données à ses enfants. C'est important. Pour la suite, quand vous allez étudier peut-être d'autres passages, mais il y a une promesse là. C'est à ses enfants qui promet de répondre. Et dans un autre passage, dans 1 Jean 3:10, il est dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous voyez, donc, il y a encore, là, dans ce passage, il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et qu'est-ce que ce sont? Qui sont les enfants du Dieu? Quiconque, les enfants du diable, c'est quiconque ne pratique pas la justice, n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Alors, la question qu'on peut se poser ce matin, est-ce que Dieu est mon père? Est-ce que Dieu est mon père? Est-ce que je suis son enfant? Est-ce que je lui appartiens? C'est important. Parce que si Dieu n'est pas mon père, je suis à côté. Le passage d'Éphésiens 2 ce matin, voilà, nous sommes morts. Suivant le prince de l'esprit, je ne me rappelle plus le passage. Voilà. Suivant l'esprit de ce monde. Sans Dieu dans ce monde. Alors, c'est important. Est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que je suis né de nouveau? Né d'en haut? Né de Dieu? Dans Jean, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui fait naître de nouveau, quand nous croyons que nous le recevons. Nous devenons enfants de Dieu. Et si nous devenons enfants de Dieu, nous sommes adopté, et Dieu est notre Père. Parce que je suis né de Dieu. C'est formidable, n'est-ce pas? Et ce que dit d'autres passages. Dans Galates, il dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Ou dans Romains, il dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !»« Papa !»« Cher Père !» Toute une affection qui est là. Dans Galates, c'est marqué aussi « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel nous crions « Abba, Père !» Est-ce que je peux l'appeler Père ? Père. Très intéressant, la plupart, pas toutes, mais presque, toutes les épîtres de l'apôtre Paul, il commence par des salutations, et il dit ceci, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. » Il écrit à des chrétiens, et du Seigneur Jésus-Christ. C'est formidable, n'est-ce pas ? D'avoir un père. Un père. Alors, je ne sais pas si vous chantez ce cantique-là. Je ne sais pas, s'il est dans les ailes de la foi. Mais dans la toile à gloire, il y a ce chant, Dieu nous aime comme un père. J'aime pas. C'est pas comme ça qu'on devrait le chanter. Dieu nous aime plus qu'un père. Plus qu'un père. Et je prends pour appui un passage de la parole. C'est dans Matthieu, où il dit « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, voilà des pères, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison !» Vous voyez, combien à plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent ? Oh, c'est une belle promesse, hein ? Combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent ? C'est plus qu'un Père. Hein ? Au moins un Père humain qui est limité. Et qui a ses travers. Et d'ailleurs, c'est pas toujours évident. Vous savez, il y a des personnes, ils ont eu des pères catastrophiques. Et le père qu'ils ont eu, ça n'a pas été un modèle. À un tel point qu'ils ont du mal à dire père à Dieu. Il y a Tim Chester, il parle de ceci, il dit, la mère d'un de mes amis a eu un père alcoolique qui était souvent violent avec elle, aujourd'hui, elle ne parvient pas à considérer Dieu comme son père. Pas évident, hein ? Alors, il donne un conseil. Mais il dit, essayez plutôt de voir les choses ainsi. Le simple fait que vous soyez déçu de votre père terrestre, ou en colère contre lui, prouve que vous savez à quoi devrait ressembler un bon père. Eh bien, Dieu est le Père que vous avez toujours désiré avoir. Donc si quelqu'un ce matin, dans l'Assemblée, n'a pas eu un bon exemple, eh bien, Dieu est le Père que vous avez toujours désiré avoir. Un Père. S'approcher de son Père. Pour pouvoir tout lui dire. Et pas avoir peur. Vous savez, un enfant, tout simple, « Ah, papa, papa !» Il va crier facilement, il va aller vers lui. Bien sûr, on va dire « Papa, c'est le plus fort, papa est le plus intelligent, papa !» Bien souvent, c'est même les premiers mots qu'il dit. Et on peut s'approcher avec confiance de ce Père-là. Mais notre Père, il va avoir céleste. Il y a un passage dans 1 Pierre 5,7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est un passage Il y a un peu plus de 33 ans, on avait trois enfants, le troisième avait 3-4 mois, et ma femme était très malade. Et j'étais inquiet, en pleine nuit, vous savez quand ça tourne et on a du mal à dormir. Et ce passage m'est revenu. Déchargez-vous, lui, sur tous vos soucis. J'arrivais pas à dormir, hein. Mais vous savez ce qui m'a fait dormir? Il prend soin de vous. 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 Et je me suis endormi. Ça a été comme une révélation cette nuit-là. Il prend soin de vous. Et c'est mes revenus hit ce fois et je me suis endormi. Et c'est vrai, il prend soin de nous. Il est notre Père. Nous sommes ses enfants. Oui, mais il y a des fois, il nous châtie quand même. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. La Bible nous le dit. Il dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Voilà. C'est pour cela qu'on peut s'approcher de lui. Et c'est vrai que notre Père, il est aux cieux. Ça veut dire qu'il n'est pas limité. Le Père humain, il est limité, il n'a pas tous les pouvoirs. Lui, il est aux cieux, il est au-dessus de tout. Il est souverain. Il est au-dessus de toutes mes difficultés, de tous mes problèmes. Il est aux cieux. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voilà. Un Dieu parfait. Un Père parfait. Un Père qui est au contrôle. Ça, c'est formidable. Que ton nom soit sanctifié. Dieu est saint, déjà. Déjà saint. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire sanctifier le nom de Dieu, c'est donc reconnaître ce qu'il est, lui rendre gloire. Dans le second 21, il dit que la sainteté de ton nom soit respectée. Déjà dans les 10 commandements, il y avait ceci. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. C'est pour ça que le peuple juif, quand il voyait le nom de Dieu, le tétragramme, il ne prononçait pas le nom de Dieu. Il disait Adonai, qui veut dire Seigneur. Alors on ne sait pas trop comment Dieu s'appelle, si c'était Yahvou ou Yahvé. En tout cas, il est celui qui est. Et c'est là que ça nous engage. On dit que ton nom soit sanctifié. Mais qu'est-ce que je fais, moi, dans ma vie? Facile de dire que ton nom soit sanctifié, mais est-ce que moi, je sanctifie le nom de Dieu? En tout cas, Moïse ne l'a pas fait à un moment donné. Parce que Dieu lui reproche ceci, parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Meriba, à Kadès, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu ne rentreras pas en terre promise. Parce que Moïse n'avait pas fait exactement ce que Dieu lui avait fait. Il lui avait dit, pardon. Ou alors, dans le prophète Malachie, Il est dit ceci. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Et si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé son nom? Vous offrez sur mon autel des animaux impurs et vous dites, en quoi avons-nous profané? Sans disant que la table de l'Éternel est méprisable, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Ouais. Vous voyez, par l'action, par rapport même à ces sacrifices, mais en fin de compte, ces personnes donnaient des sacrifices qui leur coûtaient rien. Comme ils ne pouvaient pas les vendre, comme c'était des bêtes boiteuses et tout, allez, oh, c'est pas mal ça, allez, hop, pour l'Éternel. Ouais, ben, ils salissaient le nom de Dieu. Ils profanaient. Vous savez, j'ai entendu une fois, vous allez peut-être être outré, qu'un missionnaire a reçu des sachets de thé déjà utilisés une fois. C'est bon pour la mission. On n'a plus besoin, nous, on va l'acheter. On va les donner à la mission. C'est outrageant, ça. Hein, c'est pas bien. Pour le missionnaire, c'est pas évident. Mais c'est la même image. Pour l'œuvre de Dieu, est-ce que je donne le meilleur? Est-ce que, par ma façon de faire, est-ce que je ne méprise pas le nom de Dieu? Vous savez, Dieu a été obligé de punir son peuple. Il a été obligé de le déporter. Et regardez la souffrance de Dieu. C'est un passage dans Ézéchiel. Il dit, je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été dissimulés en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où elles allaient. Ils ont profané mon saint nom. En sorte qu'on disait de, c'est la patte de l'Éternel. C'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elles sont allées. Et c'est pour ça que Dieu va les ramener, mais c'est pour son nom. Parce que la suite, il dit, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, car c'est à cause de vous que j'ai agi de la sorte, maison d'Israël, et c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes été, où vous êtes allé, pardon, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous, sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans ce pays. Et Dieu, en fin de compte, en ramenant le peuple juif en Israël, c'est pour son nom, parce que son nom a été sali. Dire comment Dieu est un Dieu grand, un Dieu qui est saint. Et dans le Nouveau Testament, il dit, car le nom de Dieu a été blasphémé parmi les païens à cause de vous. Mais alors, par rapport à nous, est-ce que le nom de Dieu n'a pas été blasphémé à cause de nous? Je me rappelle une histoire. J'aimais bien avoir des autocollants derrière ma voiture. Et j'en avais un. Et puis un jour, j'avais quelqu'un à côté de moi. Et puis, il y a quelqu'un qui nous a fait une queue de poisson et tout ça. Et celui qui était à côté de moi, il s'est mis à l'insulter, quoi. Ah, je dis, Seigneur. Du coup, ils ont enlevé l'autocollant. Parce que des fois, on veut. Mais si je mets un autocollant, il faut que j'ai une conduite exemplaire. Faisons attention. Bien souvent, c'est bien. C'est bien d'être zélé dans l'évangélisation. Mais attention. Ne profanons pas son nom dans notre témoignage. Ah, je suis chrétien. Ah bon? Eh ben. Que le Seigneur nous aide à être ces personnes qui sanctifient son nom. Seigneur, que ma vie te glorifie. Que ma vie te glorifie. Et quand. Et ça nous arrive, ça devrait nous attrister. Oh pardon Seigneur, parce que j'ai encore sali ton nom, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, et à cause de moi, ton nom a été blasphémé, pardon Seigneur. C'est important. Que ton règne vienne. Pour le croyant, on peut dire que le règne de Dieu a commencé déjà dans sa vie. Le Seigneur est venu dans son cœur. Je l'espère pour chacun. Est-ce qu'il est le Seigneur de votre vie? Est-ce qu'il est le maître de votre vie? C'est vrai que nous avons cette position. Comme il est dit dans Colossiens, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Oui, spirituellement, dans cette position-là qu'on a. Mais nous savons que le règne de Dieu n'est pas encore sur terre. Nous savons que, comme il est dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que Jésus-Christ reviendra, il l'a promis, et il fera ce règne de 1000 ans. Et après ces 1000 ans, il redonnera tout à son Père, il ira les nouveaux cieux et nouvelles terres. C'est pour ça que on prie, oh viens Seigneur Jésus, viens Seigneur. Là aussi, ça nous engage que ton règne vienne. Est-ce que je le laisse régner dans ma vie? Est-ce qu'il règne dans ma vie? Est-ce qu'il est le Seigneur de ma vie? Est-ce qu'il est le roi dans ma vie? Je vais pas vous chanter un chant, mais je vais vous le lire. Ça sera mieux. Il est aussi dans les celles de la foi. Entends-tu? Jésus t'appelle. Viens, ô pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes pas trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Pour le péché, pour le monde, tu trouves une place en ton cœur. Point pour le sauveur du monde. Rien pour l'homme de douleur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Jésus frappe. Il frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Et pour toi, luira l'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Là aussi, ça va nous engager. On veut que la volonté de Dieu se fasse sur la terre. Mais est-ce que j'accepte sa volonté? Est-ce que je suis prêt à faire sa volonté? Il y a deux choses. Accepter sa volonté et faire sa volonté. Accepter sa volonté, c'est accepter par où le Seigneur nous fait passer. Et des fois, c'est pas toujours évident. C'est très intéressant quand nous lisons dans la première épître de Pierre, il dit « Puisqu'il le faut, ça commence comme ça le verset, « Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Il y a des moments dans nos vies où c'est « Oui Seigneur, j'accepte. Non pas ma volonté, mais ta volonté. » Comme le Seigneur Jésus, hein. Seigneur, ta volonté, pas la mienne. C'est vrai que c'est dur par où je passe en ce moment, mais c'est le chemin que tu veux pour ma vie. Oui, Seigneur, j'accepte ta volonté. Job dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Et faire sa volonté, c'est, car quiconque fait la volonté de Dieu, c'est celui-là, mon frère, et ma sœur, et ma mère. Faire la volonté de Dieu. C'est pas celui qui dit, Seigneur, Seigneur! D'ailleurs, Jésus dit, c'est pas ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume de Dieu. C'est seulement celui qui aura fait la volonté de mon Père dans les cieux. Mais Seigneur, nous avons chassé des démons, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait... Retirez-vous de moi. Vous qui commettez une iniquité, je ne vous ai jamais connu. Hein? Est-ce que je désire faire la volonté de Dieu? Ça doit être l'objectif du chrétien. Que ce soit pour un travail, pour un conjoint, Seigneur, est-ce que c'est dans ta volonté? Est-ce que ce travail, ces études que je fais, est-ce que c'est ça que tu veux pour ma vie? Si j'ai ce désir-là, le Seigneur va me conduire. Il va me conduire. Il n'y a pas de problème. Combien le Seigneur attend de cela de nos vies? Oui, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Je veux être là où toi tu veux que je sois. Fini de résister. Oui Seigneur, je veux faire ta volonté. Et si le Seigneur m'appelle à un ministère, là aussi, faut pas résister. Oui Seigneur. Ah, ça va être dur, oui, mais si le Seigneur nous appelle, pas de problème. Vous savez, je suis sûr de mon appel. Et combien ça a été bénéfique d'être sûr de mon appel. Parce que quand je suis passé par des moments très durs, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Donc, vous savez, quand j'ai fait des études, moi j'étais charpentier-menuisier. Hein. Je n'étais pas un intellectuel, j'ai pas le bac, j'ai rien de tout ça. Mais quand le Seigneur m'a appelé, et puis on a commencé à avoir des cours, tombé à genoux, je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Et c'est lui qui a conduit. Parce que quand Dieu nous donne une directive et qu'on y marche, c'est formidable. Donc, que ta volonté soit faite, Seigneur, oui, sur la terre, comme au ciel et dans ma vie. On va avoir un petit moment de silence.
Oui, Père. Merci parce qu'on peut t'appeler Papa, Père. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce. Merci, Seigneur, de ce que on peut t'appeler Père. Seigneur, merci parce que tu es souverain, tu es au-dessus de tout. Seigneur, merci aussi parce que ton nom est saint, tu es grand, tu es miséricorde, tu es amour, tu es... Et Seigneur, garde-nous, aide-nous à pas blasphémer ton nom, à pas salir ton nom. Et Seigneur, que nos vies te glorifient. Ô Seigneur, règne dans nos vies. Sois le maître. Et Seigneur, oui, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Ta volonté seule. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.